Vous écoutez
RMC.
6h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Votre portefeuille va fondre avec l'achat des chocolats de Pâques. C'est un chiffre qu'RMC vous dévoile ce matin. Ils ont augmenté de 5% en un an, bien au-delà de l'inflation. Il va falloir se serrer la ceinture et la rigueur est désormais de mise, prévient le Premier ministre. Et puis, le proviseur parisien menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile vient de démissionner.
Des cloches à prix d'or cette année.
Pâques approche et ça va vous coûter cher. Les prix des chocolats s'envolent plus 5% en un an selon une enquête UFC que choisir qu'RMC vous dévoile en exclusivité ce matin. C'est bien au-delà de l'inflation alimentaire qui se trouve autour des 3%. Et pour cause, le cacao n'a jamais été aussi cher, Lucas Laubert.
Oui, des prix qui grimpent et encore plus sur les produits stars de Pâques, selon l'UFC que choisir. Plus 8% sur les œufs Milka et les Ferrero Rocher, plus 11% pour les Kinder Surprise spécial Pâques. Avec ça, on atteint parfois des écarts de prix énormes, presque 60€ le kilo pour les Kinder Surprise, contre une dizaine d'euros pour une tablette de chocolat classique. Deux principales raisons à cette inflation. D'abord, le prix du cacao qui flambe, il n'a jamais été aussi cher. Les conditions climatiques ont été très mauvaises et ont entraîné une baisse de production mondiale. Et puis le sucre, lui aussi, est de plus en plus cher, notamment à cause des prix de l'énergie. Les œufs et les lapins vous coûtent donc plus cher cette année, sauf si vous attendez que Pâques soit passé. Une semaine après, c'est 8% moins cher en moyenne.
6h32 sur RMC, un séminaire aux allures de Conseil des ministres ce matin à Matignon pour tenter de trouver de nouvelles économies après le dérapage du déficit public de la France, avec dans le viseur du gouvernement notamment l'assurance chômage. Et pour la première fois hier, Gabriel Attal a employé le mot qui fâche. Il faut une très grande rigueur, a dit le Premier ministre à l'Assemblée. De quoi faire bondir les oppositions, mais pour le député Renaissance Louis Marguerite, cette rigueur est tout à fait nécessaire.
Un peu de modération, c'est sain. On a commencé à le faire avec les 10 milliards, avec le décret des 10 milliards, mais je pense qu'il faut qu'on continue ce travail. Et encore une fois, sans changer drastiquement les curseurs, on doit pouvoir trouver quelques dépenses, et encore une fois, sans les réduire en valeur absolue, mais en tout cas en modérant leur augmentation. Oui, ça c'est possible. Du sérieux, ça c'est vrai. Des efforts, ça c'est vrai. On a été un peu plus modérés sur la question notamment du soutien aux niches immobilières, la question du Pinel aussi. Je pense qu'on peut aussi regarder quelques niches aussi immobilières. Moi, je suis pas choqué qu'on puisse revenir sur quelques rogner un peu quelques avantages fiscaux. Je pense qu'on peut regarder ces questions-là, oui.
Le CETA ne reviendra pas à l'Assemblée avant les élections européennes, prévient Franck Riester. Le ministre délégué au commerce extérieur affirme que cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, rejeté la semaine dernière par le Sénat, nécessite un temps de débat apaisé. Et pour cause, un rejet à l'Assemblée pourrait remettre en cause l'application du traité dans toute l'Europe. Il est 6h33, le proviseur du lycée Ravel à Paris démissionne. Il l'a annoncé hier aux membres et aux élèves de son établissement. Décision prise après les menaces de mort qu'il a reçues pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. L'une des deux personnes interpellées dans cette affaire sera d'ailleurs jugée fin avril à Paris. Martin Bourdin, le proviseur, quitte ses fonctions pour des raisons de sécurité.
Et ce départ, tout le monde au sein de l'établissement semble le regretter, mais le comprendre. Le désormais ex-proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel est quelqu'un de posé, d'expérimenté, capable de gérer les difficultés. C'est dommageable d'en arriver là, expliquait un parent d'élève, mais s'il ne se sentait plus en sécurité, il n'y a même pas de question à se poser. Un autre proviseur parisien explique lui que, vu le contexte, il a eu raison de quitter son poste. J'aurais fait la même chose. Il est résigné, inquiet face aux menaces subies par son collègue. Il a quitté son poste pour convenance personnelle, assure le rectorat. Son remplaçant au lycée Maurice Ravel, lui, évoque une mise en retrait pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'il a indiqué dans un message envoyé hier aux parents et aux enseignants pour leur annoncer qu'il prenait le relais à partir de ce matin et jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Dans le monde, près d'un enfant sur 6 a déjà été harcelé en ligne, selon une étude de l'OMS publiée ce matin, l'Organisation mondiale de la santé qui note une hausse du phénomène, tandis que le harcèlement physique, lui, reste stable. Nouveau rebondissement à la CIVIS, la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dont les travaux sont à l'arrêt depuis début février. C'est une information qu'RMC vous révélait dès hier soir. Un nouveau membre de la CIVIS vient de claquer la porte un mois et demi après la démission de son nouveau président et de son adjointe mise en cause pour agression sexuelle. Marion Dubreuil, cette démission vise concrètement à dénoncer l'absence de feuille de route de la commission.
Et désormais, une professionnelle en moins. Une avocate spécialisée dans la protection de l'enfance a démissionné hier. Dans un courrier auquel nous avons eu accès, Marie Grimaud dénonce l'inertie des atermoiements gouvernementaux et l'atonie dans laquelle la Ciivise a sombré. Aucun des membres n'a souhaité commenter cette démission. Cela fait plus d'un mois qu'ils ont adressé un courrier collectif au ministre du Travail, de la Justice et de l'Enfance. 34 membres de la Ciivise, magistrats, psychiatres, responsables associatifs, demandaient à travailler dans un cadre officiel garanti leur indépendance. Ils proposaient la mise en place d'un comité directeur pour protéger la Ciivise et éviter l'écueil d'une gouvernance trop personnifiée, en référence directe à la présidence précédente du juge Édouard Durand, sans réponse du gouvernement.
6h36 en football, la France a corrigé le tir hier soir en battant le Chili 3-2 après le revers infligé par l'Allemagne samedi dernier, mais sans convaincre Arthur Perrault.
Oui, les Bleus ont gagné hier, mais ils sont loin d'avoir convaincu. Secoués en première période, ils ont dû s'en remettre à des performances individuelles, notamment de Randal Kolo Muani. Le défenseur Ibrahima Konaté reste positif.
Contre l'Allemagne, ok, il y a eu des choses moins bonnes, on a perdu des zéros, mais il vaut mieux que ça arrive là qu'en pleine compétition pendant l'Euro. Donc on garde les choses positives et négatives, et les négatifs, on va essayer de les gommer.
Kylian Mbappé est resté muet deux fois de suite en tant que titulaire. Ce n'était plus arrivé depuis l'Euro 2021. Le sélectionneur Didier Deschamps se veut rassurant.
Kylian, évidemment, a cette capacité à être très souvent décisif. Quand il n'est pas, deux matchs, on a l'impression qu'il n'a pas marqué pendant trois mois. Vous inquiétez pas, dans les prochains matchs, il sera là. Je dois m'inquiéter aussi pour Kylian.
Point noir de ce mois de mars, les pépins physiques à répétition comme ceux de Jonathan Clauss et Eduardo Camavinga. Prochain rendez-vous les 5 et 9 juin prochains à Metz et à Bordeaux. Une ultime répétition générale avant l'Euro pour balayer les derniers doutes des Bleus.
Et ça y est, on connaît le troisième adversaire de l'équipe de France en phase de groupe à l'Euro. Ce sera la Pologne après l'Autriche et les Pays-Bas.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Marseille-Borély.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Hibiscus Man. L'outsider, c'est le numéro 14, Floréal. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean. On vous retrouve pour le journal de 7h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les fonctionnaires qui ne font pas tout à fait leurs 35 heures, les dépenses des départements, les dépenses des régions, le gouvernement part à la chasse aux économies après la publication du chiffre du déficit. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère, vous allez voir, notamment sur les allocations chômage. Une nouvelle réforme arrive. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que cette rigueur du gouvernement vous inquiète ou au contraire, est-ce que vous dites qu'il faut y passer? Tiens, si vous étiez ministre de l'économie pour un jour, vous feriez quoi? On vous attend au 32-16.
RMC Police Justice.
C'est l'heure de l'histoire du jour, racontée et repérée par le service Police Justice d'RMC. Bonjour Guillaume Biais.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous racontez l'affaire de ce jeune homme qui lançait des fausses alertes à la bombe par vengeance pour une histoire de console de jeu.
Oui, dans le fléau actuel de fausses alertes à la bombe visant les lycées, le profil de ce suspect est assez singulier. Il y a 15 jours, c'est lui qui se cachait derrière le message très alarmant visant le lycée de Barbezieux près d'Angoulême. Message volontairement signé, mais en réalité l'auteur du texte a un tout autre nom. Il s'appelle Karl, il a 21 ans et il vient d'être incarcéré en attendant son procès en mai prochain. Les gendarmes qui ont remonté sa piste le soupçonnent d'être également responsable de fausses alertes identiques visant les mairies de Laval, de Tours ou du Mans, ce que les vérifications ont confirmé d'après le procureur. Alors pourquoi signe-t-il ces messages sous une autre identité? C'est pas juste pour brouiller les pistes, mais pour porter préjudice et orienter faussement les enquêteurs vers un autre jeune homme totalement innocent, mais qui est devenu la bête noire de Karl. Il le harcèle depuis des années, depuis qu'ils se sont disputés sur un forum en ligne pour une histoire de PlayStation. Une banale querelle entre joueurs aux conséquences démesurées. La victime de ce harcèlement raconte son calvaire à nos confrères de la Charente Libre. Quant au suspect, il est décrit par son avocate comme aigri, jaloux, vivant reclus dans sa chambre, isolé socialement. Il devra faire l'objet d'une expertise psychiatrique dans quelques temps, juste avant son procès.
L'histoire du jour avec Guillaume Biais, chef du service police justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h41 sur RMC.
À vous de nous dire.
À vous de nous dire. La rigueur, le mot est lâché après la publication des chiffres du déficit. On vous les donnait dès le journal de 7h30 hier. 5,5% du PIB pour l'année 2023. Un trou de 154 milliards. C'est simple, il manque 154 milliards d'euros. Un truc qu'il faut désormais boucher. Et Gabriel Attal a donc lâché le mot qui fâche. C'était hier à l'Assemblée.
Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail. Parce que la réalité, c'est que si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes. C'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances. C'est ça la ligne de mon gouvernement, c'est ce que nous avons poursuivre et j'espère que nous pourrons nous rejoindre sur un certain nombre de points.
La rigueur. Alors, je vais vous donner la parole au 32-16. Si vous, vous étiez ministre de l'économie, où iriez-vous chercher ces milliards d'euros qui manquent? Mais d'abord, Manu, ce mot rigueur, ça a un sens en économie.
Oui, absolument. C'est une politique qui vise à réduire les déficits publics par deux biais. Soit on augmente massivement les recettes fiscales, ça veut dire augmenter l'impôt sur le revenu, augmenter la TVA par exemple, ou alors vous cherchez à diminuer les dépenses et là vous tapez dans les dépenses sociales. Donc c'est baisse des dépenses publiques ou bien hausse de la fiscalité, parfois
les deux.
Parfois les deux, évidemment. Le meilleur exemple en France, enfin le plus célèbre, c'est ce qui se passe en 1983.
Le fameux tournant de la rigueur.
François Mitterrand mène une politique de gauche, donc il augmente le SMIC, il fait une relance de la demande, il creuse les déficits publics. Et l'Europe, à l'époque, c'est pas possible. Je vous rappelle qu'il n'y a pas l'euro, le franc est menacé et il faut absolument réduire les déficits publics. Et là, on change radicalement de politique, effectivement, avec une politique fiscale beaucoup plus dure, des réductions de dépenses. Ça, on l'a connu en France. On en est très loin encore. On en est très loin encore aujourd'hui, puisque je vous rappelle que rien que les chiffres 2023 hier, les dépenses de fonctionnement de l'État, donc le train de vie, c'est plus 6%, hausse des dépenses de retraite.
Plus 6% depuis quand ?
60 000 par rapport à l'année précédente.
C'est-à-dire qu'en fait, au même moment où ils nous disent il n'y a plus de sous, en fait, ils viennent de faire plus 6% de fonctionnement, simplement. Alors, on n'est pas dans l'investissement. Alors,
non, pas du tout. Et dans les baisses de dépenses, il y a souvent, par exemple, les réductions d'effectifs de fonctionnaires. On en a quand même embauché 60 000 l'année dernière. C'est du jamais vu depuis 2013.
Oui, donc mais dans un moment où, effectivement, on manque
en est
de profs, on manque de médecins, on manque quand même beaucoup
d'agents de sur l'échelle de la douleur, si vous voulez.
Oui, on n'est pas en 83. Quoi.
On est plutôt à 1 ou 2, alors qu'en 83, on était à 7 ou 8 quand même.
Alors, on est avec Sapho et Eric qui sont déjà avec nous au 32-16. Bonjour Eric.
Bonjour.
Eric, vous nous appelez du Tarn, vous êtes chef de chantier en électricité. Si vous étiez ministre de l'économie, vous feriez quoi là ?
Beaucoup d'économies sur les fonctionnaires déjà.
D'accord.
En exigeant qu'ils fassent leur travail et qu'ils travaillent les heures pour lesquelles ils sont payés.
Alors, il y a parmi les pistes déjà l'idée qu'ils fassent les 35 heures. Il y a un certain nombre, notamment dans les collectivités territoriales parfois, de fonctionnaires de l'État ou des collectivités qui ne sont pas aux 35 heures au sens où ils font moins que 35 heures. Et donc, l'idée, l'une des pistes qui a été d'ailleurs évoquée déjà par le gouvernement, c'est de les obliger à travailler 35 heures pour avoir moins d'embauches de fonctionnaires à faire. Enfin, moi, je veux bien qu'on dise ça, mais Eric, les profs, c'est des fonctionnaires et on manque de profs. Je sais pas si vous avez des enfants, mais vous avez sans doute envie qu'il y ait des profs devant eux, non ?
Oui, je veux bien, mais justement, on exige qu'ils fassent leur travail, qu'ils soient présents et qu'ils ne soient pas absents parce qu'ils ont un petit mal de tête ou autre chose. Peut-être qu'on ne ferait pas ces dépenses-là.
On a l'impression aussi que l'une des pistes, ça va être d'aider moins, c'est-à-dire notamment les chômeurs, réduire encore sans doute les allocations, réduire les allocations pour les seniors. Est-ce que ces pistes-là, vous, Eric, vous les valideriez à Bercy ?
Non. Parce que c'est toujours tapé, ça sera toujours tapé sur le petit et sur celui qui a rien. Celui qui est au chômage à 55 ou 60 ans, c'est pas pour le plaisir.
C'est ça, c'est pas pour le plaisir, c'est dur. Nicolas.
Non, je voulais juste faire remarquer à Eric que les statistiques nous disent que les profs ne sont pas plus absents que les salariés du secteur privé. Tout simplement pas plus absents, c'est pas vrai ce qu'il vient de dire, que les profs se mettaient en maladie dès qu'ils avaient mal à la tête.
Ils sont pas plus absents et simplement ils sont moins nombreux, ils sont déjà pas suffisamment nombreux en fait.
Alors ils sont pas plus absents pour des raisons de maladie, en revanche si on rajoute les formations, qui est effectivement à ce moment-là le taux d'absence des profs dépasse légèrement le taux des salariés du privé. Mais pour les arrêts maladie, puisque c'est ça qu'évoquait Eric, c'est tout simplement faux.
C'est faux ça, Eric.
C'est faux. On doit pas être dans la même réalité. Les chiffres, je sais pas comment ils les calculent, mais faut voir ce qui se passe vraiment.
Ils sont à l'os, oui, en termes de nombre de fonctionnaires. Manu.
Le problème, c'est que tous les fonctionnaires qui sont au contact direct des usagers vivent dans une situation de paupérisation terrible et que les gaspillages sont considérables entre ce fonctionnaire de terrain et le ministre. C'est là où il y a des suradministrations, des services qui sont
des doublons,
des triplettes, etc. En France, sur un dossier, il faut qu'il y ait 5-6 tampons, 7 tampons de services différents. En fait, c'est pas qu'il y a des fonctionnaires qui font rien, c'est qu'il y en a plein qui font la même chose.
Ça fait des années qu'on le dit.
Oui, mais c'est bien pour ça que, si ça ne change pas, ça change.
Charles.
Comme et puis il y a aussi la question du millefeuille, parce que entre le ministre et le fonctionnaire, il y a aussi tous les étages, la métropole, le département, la région, etc.
On a décentralisé, mais sans enlever les étages intermédiaires.
Il y a peut-être du gras là, oui.
On le voit bien régulièrement. RMC s'engage avec vous quand on a un dossier qui implique la métropole, la ville, le ministère. En fait, personne ne s'accorde.
Et c'est moins efficace.
Exactement. Il n'y a pas de coordination entre les services. Et en fait, ils travaillent, même pour nous, quand on leur demande des choses et de s'activer, ils travaillent. Il y a trois services qui travaillent pour RMC s'engage avec vous et qui, au final, parviennent à la même réponse. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Safo est aussi avec nous. Bonjour, Safo.
Oui, bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Alors vous nous appelez de Poitiers, vous travaillez dans le recrutement. Oui. Comment vous voyez ça? Vous seriez ministre de l'économie, vous feriez quoi là?
Donc déjà, qu'ils réduisent leur salaire. Et surtout ce départ. Parce que je suis désolée, vous quittez votre entreprise, d'accord, vous avez rendu un service à la nation, vous êtes engagé. Mais je suis désolée, partir avec un gros chèque de 15 000 euros pendant 3 mois après votre départ, c'est pas normal.
Vous pensez à qui ça faut? À ceux qui travaillent dans les ministères?
Oui, exactement, tout à fait.
Parce que moi, j'avais pas cette info qui partait avec 15 000 euros, j'ai jamais vu ça.
Je pense que Nicolas, les ministres. Les ministres ont effectivement plusieurs mois, gardent leur traitement, ce qui est une façon pour eux de rebondir. Mais je crois pas que les membres des cabinets ministériels partent avec rien et pas le droit de s'inscrire au chômage. Et puis les fonctionnaires, ils restent.
Pour le coup, Safo, là-dessus, je crois effectivement, il faut quand même être précis. D'abord, les ministres, je crois qu'ils ont pas le chômage derrière. Et par ailleurs, ils peuvent sauter à tout moment. Alors après.
Ils peuvent sauter à tout moment, mais ils se sont engagés à servir la nation, je suis désolée. Donc, ils s'engagent, c'est pas pour l'argent, c'est parce qu'ils veulent rendre...
Je comprends bien, Safo, mais vous feriez le boulot en vous disant qu'à tout moment, vous pouvez sauter et que derrière, vous n'aurez pas de chômage?
Mais on est tous irremplaçables, Apolline, dans le travail, que ce soit un ministre ou que ce soit un salarié lambda comme moi.
Parfaitement. Non, mais Safo, ça, je suis parfaitement d'accord. Et par ailleurs, il y a aussi une autre question qui est la question de l'augmentation qui vient d'être votée par les sénateurs et les députés. En revanche, c'est vrai que sur la question, je trouve que, je veux dire, dans un pays où il y a quand même un certain nombre d'aides d'organisations, c'est vrai que là, pour le coup, les ministres, quand ils sautent. Mais sur les augmentations, c'est vrai que le timing est quand même assez sidérant quand on voit les augmentations que se sont octroyées les sénateurs. Et les députés, alors c'est pas une augmentation de salaire à proprement parler, c'est une augmentation de l'enveloppe de frais. Enfin, ça revient à peu près au même quand même. Amélie.
Une précision sur les indemnités de départ des ministres. Quand ils partent, effectivement, ils touchent 3 fois leur traitement mensuel. Donc là, par exemple... dans le cas d'Elisabeth Borne en janvier, elle est partie avec 3 fois quasiment 15 000 euros, soit un peu moins de 45 000 euros.
Voilà, donc ils partent avec ça. Est-ce qu'elle touche le chômage derrière?
A priori, non.
Non, a priori, non. Donc c'est effectivement de ce point de vue-là. Donc ça, faut première chose, vous réduiriez et vous estimez que c'est aussi à eux de montrer l'exemple. Cette question de les augmentations des députés et des sénateurs, elle revient régulièrement et c'est vrai que...
C'est quand même fou. Tous nos auditeurs, ils sont pas fous. Ils savent très bien que c'est pas qui réduira les déficits publics. Ils sont hyper attachés à cette idée d'effort partagé. Et si c'est pas un effort partagé, les Français n'adhéreront pas.
Merci Safo et Eric d'être venus poser le débat avec nous ce matin. On vous attend au 32-16, tous ministres de l'économie.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, racontez-nous, Nicolas.
Mais je vous raconte l'histoire de l'accident hier à Baltimore, ce porte-container qui a fait s'effondrer un pont.
Et on n'avait pas osé vous en parler, Charles.
Et pourtant, certains ont la rancune un peu trop tenace vis-à-vis de leurs ex.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Pas rancunier.
chemin un peu.
Mais tout de suite, on va faire un tour sur l'appli RMC. On va regarder vos messages, évidemment, sur Direct Studio, vos réactions. Bah tiens, si vous étiez à Bercy, que feriez-vous pour réduire la dépense publique? Jean-François nous dit, bah, si l'austérité, ça signifie qu'on va arrêter de faire des chèques à la con, je suis pour. Voilà comment l'écrit Jean-François sur Direct Studio. Philippe, lui, nous dit, encore une fois, j'ai l'impression que ce sont les gens qui bossent qui vont trinquer. On nous dit qu'il faut remettre les gens au boulot. Encore faut-il qu'ils en trouvent et que ce soit des boulots correctement payés. Voilà ce que dit Philippe. Didier, lui, nous dit, des économies, eh ben, commençons à supprimer toutes les agences, tous les comités qui ne servent à rien à part recaser des copains. Je pense par exemple au Conseil économique et social. Ça coûte un fric fou pour pas grand-chose, écrit Didier. Et puis Patrick, lui, nous dit, bonjour à tous. Oui, il faut faire des économies, mais il faut tout remettre à plat. Les subventions, la fraude et pourquoi pas imaginer un impôt exceptionnel sur les grandes fortunes et sur les bénéfices du CAC 40. Il n'y a pas que des dépenses à couper, il y a aussi de nouvelles recettes à trouver, estime Patrick. Et vous, si vous étiez ministre de l'économie, où feriez-vous des économies justement dans les dépenses publiques? Vous venez nous le dire au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h52. Merci d'avoir choisi RMC. On est ensemble jusqu'à 9h. Et voilà le programme de la suite de la matinale. À 7h10, l'euthanasie n'est officiellement pas autorisée en France, mais dans le secret des couloirs d'hôpital, il se passe des choses qu'on ne dit pas, mais que le témoin du jour veut nous révéler. Son récit, c'est juste après le journal de 7h. L'économie, à 7h20. Manu, c'est quoi le programme?
Eh bien, le ministre des Armées brandit la menace de réquisition pour accélérer la production d'armes, on voit en quoi ça consiste.
Et ne manquez pas, à 8h30, le patron des magasins U, notre pouvoir d'achat, nos courses, notre caddie, les prix commencent à baisser.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Racontez-nous, Nicolas. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire de ce pont qui s'est donc effondré hier à Baltimore, heurté par un porte-container.
Oui, c'est une catastrophe qui aurait pu être beaucoup plus grave encore. Quand on voit les images de vidéosurveillance, on constate que quelques minutes avant la collision, des dizaines de voitures se trouvaient sur cet immense pont qui fait entre 2 et 3 kilomètres. Il y avait de la circulation malgré l'heure tardive. Il était 1h30 du matin parce que ce pont est un axe autoroutier nord-sud important qui mène vers Washington. Lorsque le porte-container a perdu le contrôle de sa trajectoire à cause d'une panne de propulsion, eh bien, son équipage a heureusement très vite donné l'alerte en lançant un Mayday. Et ce SOS a rapidement été relayé par les autorités du port, si bien que la circulation du pont a pu être coupée juste à temps. Lorsque le navire a heurté l'ouvrage, il n'y avait donc plus sur le pont que 8 ouvriers qui travaillaient à boucher des nids de poules. Eux n'ont pas eu le temps de fuir à temps. Ils sont tombés avec l'édifice qui s'est effondré en une poignée de secondes. 2 de ces ouvriers ont été repêchés dans l'eau, dont l'un grièvement blessé, mais les 6 autres sont portés disparus.
6 qui ont donc disparu. Qu'est-ce qu'on sait du bateau qui a provoqué cette catastrophe?
Alors, c'est un immense porte-container de 300 mètres de long, presque la longueur de la Tour Eiffel. Un cargo récent, le Dali, qui appartient à une société de Hong Kong, mais qui était exploité par un armateur de Singapour et qui, pour ce voyage à destination du Sri Lanka, était affrété par le géant danois Maersk. Au moment du drame, des pilotes américains étaient à la manœuvre. Une panne électrique a provoqué une panne de moteur qui a rendu le bateau incontrôlable. L'équipage a réagi selon les règles, c'est-à-dire qu'il a jeté des ancres pour ralentir le navire, mais malheureusement pas assez. En 2016, le Dali avait déjà eu un premier accident. Il avait heurté un quai dans le port d'Anvers en Belgique, sans faire de blessés, mais en faisant des dégâts sur le quai et sur le bateau. Les accidents maritimes sont assez rares. 2 accidents sur le même bateau, eh bien c'est encore plus rare.
Sauf que depuis, il avait été, je crois, vérifié l'année dernière, en 2023, 2 fois.
Alors une fois au Chili où on avait constaté un petit problème, et une autre fois plus récemment aux États-Unis où ce problème avait disparu.
Et donc où il avait été effectivement libéré de toute obligation. Merci Nicolas, on n'avait pas osé vous en parler, mais Charles est là.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Charles, certains vont un peu trop loin pour se venger de leur ex.
Oui, ça nous est tous arrivé d'avoir quelques ressentiments vis-à-vis d'un ou d'une ex. Mais en Australie, un homme a tenu à le faire savoir à tout le monde devant son nouveau restaurant qui vient d'ouvrir à Melbourne. Il a affiché une immense banderole sur laquelle on peut lire « Hey Sophia, tu as rompu avec moi parce que j'étais pauvre, mais maintenant j'ai de l'argent et j'ai pu ouvrir mon propre restaurant de barbecue coréen. Alors est-ce que tu regrettes de m'avoir quitté ?»
C'est une énorme affiche.
Énorme affiche devant le restaurant. Alors la fameuse Sophia n'a pas encore réagi, mais la banderole fait le tour des réseaux sociaux. La vengeance est un plat qui se mange dans un barbecue coréen. Un autre estime que Sophia ne risque pas
pas de voir la banderole si elle est sur le yacht de son nouveau petit copain. Oh. Certains estiment qu'il s'agit d'un simple coup marketing. D'ailleurs, le restaurant situé juste en face a déployé une autre banderole. Ne t'inquiète pas pour Sofia. Ici, nous avons de délicieux desserts pour te consoler. Et puis, les Australiens n'ont pas le monopole de la vengeance et de la rancœur. L'été dernier, en France, du côté de Perpignan, un homme avait organisé des obsèques pour son ex-belle-mère, toujours en vie.
Mais non !
Il avait rempli tous les formulaires en ligne. Et son ex-compagne avait été contactée par les pompes funèbres pour caler les obsèques de sa mère, mais toujours
non.
vivante.
Non, si, c'est exceptionnel.
Oui, enfin, c'est surtout complètement illégal. Non, elle avait porté plainte. Ça lui avait valu une belle amende.
Moi, je connais un viticulteur bourguignon. Sur sa voiture, il a collé toutes les pages du jugement de divorce.
Non.
Si. Ah, oui.
Il allait pas bien. C'est dommage.
Ouais, une certaine idée du tuning.
C'est moins marketing. Oui, on a moins marketing. Envie de prendre le.
Mais ça soulage.
Mais sur le moment, ça fait sûrement du bien. Oui. Le 32-16, vous êtes ouvert pour vos récits.
Oui.
Il est 6h57.